Henri-Marc Mutel qui réalise l'émission, Chantal Lemontagnier qui la prépare, Clément Berman qui est aux manettes, ainsi que Djoubaka qui lui a choisi la musique. Et ben, je sais pas pourquoi, mais tous ont les joues toutes roses. Serait-ce la marque de la honte? Puisque tel est notre sujet ce soir, en compagnie de Frédéric Gros, professeur de pensée politique à Sciences Po Paris, et également éditeur de Michel Foucault dans la Pléiade.
France Inter, l'heure philo, Patricia Martin.
Bonsoir Frédéric Gros.
Bonsoir.
Faut-il, pour définir ce que c'est que la honte, prendre d'autres affects en compte, comme par exemple la culpabilité, le remords, le regret, un ratage. Qu'est-ce que c'est que la honte au fond? Quelle est la différence avec tout ce que je viens de citer?
C'est vrai que la honte définit un paysage, je trouve, très particulier, très singulier. Alors, si on prend, par exemple, la culpabilité que vous avez citée, qui est au fond très proche, parce que...
Que vous citez aussi dans votre livre.
Ah ouais, parce que j'ai honte de ce que j'ai fait, je me sens coupable, on pourrait se dire que c'est très proche. Mais il y a peut-être une dynamique, un certain feu dans la honte qu'il n'y a pas dans la culpabilité. Il y a de l'imagination, déjà, dans la honte. On peut avoir honte pour quelqu'un, on se sentira jamais coupable pour quelqu'un. La honte, elle nous transporte.
Et la honte, elle est à la fois morale, elle est sociale, elle est psychologique, elle peut être politique aussi?
Elle peut être politique. La honte, elle définit toute une série de paysages qui sont très, très différents. Entre Adèle Haenel, qui va au moment de la cérémonie des Césars.
Qui dit trois fois la honte.
Voilà, qui hurle la honte, la honte, la honte.
Et c'était alors à l'endroit de Roman Polanski.
Tout à fait, au moment de la remise
des
Césars. Et puis, je sais pas, la honte d'un petit jeune homme atteint de bégaiement et qui doit prendre la parole. On s'aperçoit bien que c'est pas les mêmes. Donc c'est vrai que ça définit des paysages qui sont différents.
Oui. Et vous pensez, vous, Frédéric Gros, que c'est un l'affect majeur de notre temps?
Je pense à la fois que c'est une entrée sur la condition humaine qui est quand même phénoménale, parce que c'est quelque chose qu'on partage et on est tous, enfin, j'en serais presque à l'espérer. Je veux dire, quelqu'un qui n'a jamais connu de ce sentiment dans sa vie, je lui ferais a priori pas confiance. Et en même temps, oui, je dis l'affect majeur de notre temps, mais dans une espèce de tension presque insupportable, c'est-à-dire qu'à la fois on va entendre l'injonction « n'ayez plus honte de vous-même, soyez fiers, assumez-vous, débarrassez-vous de tous ces petits poisons qui vous détruisent l'existence », et en même temps on va entendre « mais on est vraiment dans un monde éhonté, il n'y a plus assez de honte, tout s'exhibe, tout s'étale, t'as pas honte, etc. »
Mais ce serait une épidémique en quelque sorte?
Oui, alors ça, vous avez raison, c'est la honte a une dimension épidémique, c'est très contagieux la honte, pas la culpabilité. C'est un sentiment qui est contagieux, et d'ailleurs les hontes ancestrales, c'était une famille, c'était jamais une seule personne, c'est-à-dire un faux geste, un faux pas d'un seul membre de la tribu, et la honte recouvrait l'ensemble du clan.
Le philosophe Didier Héribon, intellectuel engagé, qui est aussi sociologue, nous donne sa définition de la honte.
Le thème de la honte est un thème qui a été au centre de mon travail, de mes travaux précédents, autour de la honte sexuelle. Qu'est-ce que c'est que, pour un gay, pour une lesbienne, le fait d'être insulté, être quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est insulté, mais potentiellement insultable en permanence à chaque coin de rue. Et donc, on est voué à une sorte de honte de soi-même, et il est très très difficile de la dépasser, comme Genet le montre très très bien. Et on ne peut construire sa personnalité qu'en travaillant sur ce sentiment de la honte, en se l'appropriant et en essayant de l'utiliser comme une sorte d'énergie créatrice de soi-même, transformatrice de soi-même. Et au moment où mon père est mort, où j'ai pensé écrire Retour à Reims, je me suis aperçu que j'avais parlé de la honte, mais j'avais oublié de parler d'une honte tout à fait fondamentale que j'avais aussi éprouvée, qui était la honte sociale. C'est-à-dire, il m'avait été plus facile, dans le contexte politique et culturel des années 90, d'écrire sur la honte sexuelle que d'écrire sur la honte sociale. C'est-à-dire, j'avais eu honte d'être fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage. et je n'en parlais jamais. Et donc j'ai voulu parler de ces choses dont on ne parlait pas. Pourquoi j'avais eu honte de mon milieu social? Bon, après tout, j'aurais très bien pu dire, partout où j'allais, oui, quand on me posait la question, oui, mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage. Aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi j'ai pu avoir honte de ça. Et donc j'ai voulu explorer tout ça. J'ai voulu retravailler sur le thème de la honte et ajouter une dimension nouvelle à cette réflexion sur la honte.
Didier Ribon, qui a eu honte de son milieu social. Camus, vous le racontez, François Gros, dans votre livre. Albert Camus qui a eu honte de sa mère qui était femme de ménage, et puis qui a eu honte d'avoir eu honte. Annie Ernaux aussi, qui a la honte du pauvre avec l'eau de Javel qui vous colle à la peau, c'est ça?
Ouais, l'odeur de propre du pauvre. C'est-à-dire, il y a une odeur de propre du pauvre qui pue socialement. Et c'est l'eau de Javel. Non, je suis très sensible à ce que dit Didier Ribon parce que il perçoit bien que la honte, c'est une formidable machine à vous mettre dans des cases.
Mais on dirait presque que c'est une fatalité.
C'est une fatalité au sens où il y a un système à produire les hontes et dès qu'on essaye un peu de déborder de sa case, d'être un peu autrement, on nous rappelle à l'ordre et c'est vrai que c'est très stigmatisant et que la honte devient une espèce de, il parle d'énergie en même temps, une colère, une rage, mais qui finit par se retourner contre soi. Et c'est pour ça que ça détruit. Parce qu'on a honte de soi, c'est-à-dire que toute cette part pure de colère qu'il y a dans la honte, elle finit par détruire celui qui la ressent. Donc c'est vraiment un poison, ça peut vraiment être un poison.
Peut-être l'avez-vous vu dans le métro, il y a des affiches que je trouve très très parlantes et très, oui, elle vous frappe. Celle d'un petit garçon qui a un air ténébreux, avec écrit pauvre sur le front et il est écrit en dessous, ne lui collez pas une ouais, étiquette.
Tout à fait. Ce qui est très, je trouve très beau et très fort dans la honte, c'est que ça permet de redéployer et de recomprendre la société comme un système de jugement.
Oui, c'est ça, comme c'est la société qui
très stigmatisant.
Qui devient système.
Voilà, et c'est pas on est au-delà de la société, c'est le vivre ensemble, c'est le pacte républicain. Non, la société, ça fonctionne comme des jugements terribles, comme des assignations de chacun à sa place et avec cette espèce de tremblement, est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que j'ai pas pris ma place à un autre, est-ce que, etc., etc. Et tout ça favorise la honte comme l'affect qui va obliger chacun à tenir sa place.
Et le net y contribue largement.
Ah bah là, si vous voulez, c'est vrai qu'avec avec les réseaux sociaux, alors que ce soit Instagram, Facebook, etc., on a des machines à la fois à s'exhiber et à s'exposer.
Avec une image publique qu'on donne de soi.
Une image publique qui peut être dégradée, qui peut être vilipendée, et on va ressentir les dégradations simplement symboliques, on pourrait dire virtuelles, etc., mais comme des blessures terribles.
Ça peut démolir. Vous parlez de Justine Sacco, par exemple.
Ah oui, ça peut démolir. L'histoire de cette femme, c'est vrai qu'il avait fait un tweet vraiment très limite,
même pas
de très très mauvais goût, mais qui
se fait... Elle partait pour l'Afrique.
Pour l'Afrique. Je me souviens plus exactement du tweet, mais c'était quelque chose comme je vais en Afrique du Sud, je vais choper le sida, ah, pas même vrai, je déconne, je suis blanche. Enfin, vraiment quelque chose vraiment d'horrible, de pas drôle. Et puis, pendant tout le voyage en avion, elle est au-dessus, elle est dans les nuages, mais dans le cloud, cette fois numérique, se lève une espèce de tsunami terrible, et quand elle arrive, elle est vidée de sa substance. Elle n'existe plus au sens où plus personne ne veut la voir, et s'est levé cet ouragan digital sur elle, mais ça fait presque 10 ans, vous tapez son nom aujourd'hui sur Google, vous tombez sur son tweet. C'est-à-dire que c'est vraiment...
C'est
des choses... C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont aussi des machines à faire honte et des systèmes par lesquels chacun va se débarrasser de sa propre monstruosité en la projetant sur un autre.
Dark Side, un extrait de leur dernier album, Lawmaker, c'est le législateur. Vous êtes sur France Inter.
He's wearing the doctor's coat. Hand is the ruin of a lawmaker. He's wearing a doctor's coat, but in his hand is the ruin of a lawmaker. He's got the cures we need.
Frédéric Gros est ce soir notre invité. Il est professeur de pensée politique à Sciences Po Paris. Il est éditeur de Michel Foucault dans la Pléiade et auteur d'un livre intitulé « La honte est un sentiment révolutionnaire ». Angélique Bouin, correspondante de Radio France à Bruxelles.
Les sourcils froncés avec cet air renfrogné que prend l'adolescente lorsqu'elle est contrariée. Greta Thunberg ne mâche pas ses mots. Vous avez reconnu que la maison brûle, mais vous êtes rentrée pour finir votre dîner sans même appeler les pompiers, lâche la jeune fille.
This is all wrong. I should be back in school. How dare you?
Comment osez-vous, Greta Thunberg, qui fait particulièrement parler d'elle d'ailleurs en ce moment, qui se pose finalement, elle est en surplomb, hein, elle finalement, c'est ce qu'elle nous dit, c'est comment faites-vous pour supporter votre propre regard, pour vous regarder dans la glace, non?
Ouais, tout à fait. C'est une espèce de message terrible, violent, un peu cinglant, qui fait mal d'ailleurs. Hein. Je veux dire les réactions, j'allais pas dire haineuses, mais enfin d'une espèce sarcastique, mais de très mauvais goût qu'elle peut susciter. Rendre compte, je trouve, de cette puissance qu'elle a de provocation et le registre sur lequel elle joue, c'est exactement celui de la honte, c'est-à-dire s'adressant à ma génération, après tout, mais enfin, beaucoup plus tôt aux grands dirigeants de ma génération, la question qu'elle pose, c'est vraiment, est-ce que vous n'avez pas honte du monde que vous allez nous laisser? Et là, on voit que cette
Le général de Gaulle le disait d'une autre manière dans l'appel du 18 juin. Hein. C'était aussi une mise en garde et en disant, mais résistez, quoi.
Tout
comment pouvez-vous ne pas résister?
Et ouais, et c'est là qu'on voit que à côté de se faire honte dont on a parlé, stigmatisant, infériorisant, chosifiant, tu es nul, tu es etc. Il y a aussi un faire honte qui est là pour nous élever, pour nous envoyer quelque chose comme une décharge électrique et nous faire réagir. C'est-à-dire le petit mais dit t'as pas honte, c'est quelque chose qui va tenter de greffer en nous des exigences nouvelles et puis des possibilités de transformation. Et cette honte-là, elle est constructrice.
C'est la honte finalement face à sa propre conscience.
C'est la honte face à sa propre conscience, mais qui expérimente l'impossibilité de se désolidariser du monde. Parce qu'on pourrait dire c'est injuste, c'est dégueulasse, etc. Mais dire j'ai honte, c'est dire je peux pas ne pas me sentir quand même un peu participer de ce système. Et c'est ça la force de ce sentiment. Et c'est ça dans le « mais dis, t'as pas honte ?» Dans cette manière que Greta Thunberg et d'autres peuvent avoir à s'adresser aux éhontés de l'existence, aux éhontés du système, aux Jeff Bezos qui vont faire leur petit tour comme ça dans l'espace en pleine crise pandémique et reviennent avec des déclarations un peu mouillées sur la beauté et la fragilité de la Terre. Enfin, on croit rêver. On se dit, là pour le coup, on se dit, certains n'ont pas assez honte, aucune retenue. Et là, la honte, elle devient une dynamite, une étincelle, mais qui va prendre le feu du monde plutôt que de détruire celui qui la porte.
Vous dites dans votre livre, vous écrivez, Frédéric Groux, qu'il y a la superposition finalement de trois hontes qui touchent trois grands domaines, donc la pauvreté sociale, on en a parlé tout à l'heure, l'infamie morale et la saleté physique. Et tout ça se superpose, c'est comme un millefeuille.
Oui, c'est ça, c'est des manières, c'est vrai que peut-être que la plus reconnaissable, on a parlé de la honte sexuelle et Ribon en parlait, c'est vrai que la honte liée à la saleté, c'est quelque chose qui a des racines qui sont quand même très forte en nous, mais le social a une espèce de force peut-être supérieure, parce que la honte, c'est quand même toujours la manière, il faut le dire, la manière dont j'existe dans les yeux des autres. C'est ça que pose le problème de la honte.
Mais on a honte parce aussi que ça vous arrive à vous, à soi. Ça arrive à soi.
Ouais, il peut y avoir de ça dans le traumatisme. Il peut y avoir de ça dans la manière. La honte, c'est au fond la manière dont on va penser que ce qui nous arrive, on y a une espèce de part. Alors là, celle-là, il faut effectivement s'en débarrasser. Il faut travailler là-dessus, etc. Mais oui, c'est au fond la honte, c'est une manière de se dire si ça m'arrive à moi, c'est quand même pas pour rien.
Et est-ce que la honte peut vous survivre, Frédéric Groux ?
Ah, ça, il y a une très belle expression, je pense que c'est à celle-là que vous faites allusion, c'est les derniers mots de Kafka dans Le Procès, et c'est comme si la honte devait lui survivre, c'est comme si, c'est-à-dire on s'aperçoit quand même, par rapport à la culpabilité qui est quand même le grand sentiment qui nous glorifie, je me sens coupable, etc., mais notre vie est davantage pourri par des micro-ondes, des petites hontes, toutes nos manières de se dire « et qu'est-ce qu'il va dire de ceci ? Qu'est-ce qu'ils vont penser de cela ?» etc. dont on pense effectivement jusqu'au bout que ça va nous survivre, alors c'est l'illusion majeure, mais tout le monde s'en fiche, si vous voulez, mais on se laisse grignoter quand même par ces petites hontes qui à chaque fois nous remettent dans notre case.
Il y a une histoire dont on se souvient longtemps quand on la lit et que vous rapportez dans votre livre qui a été racontée par Robert Antelme. C'est au moment où les SS abandonnent les camps d'extermination, donc avec des hordes de concentrationnaires, et puis de temps en temps ils en font sortir un du rang pour l'abattre.
Oui, c'est vrai, c'est... Alors l'histoire est la suivante, on fait partir effectivement tous ces rescapés, on essaye de les faire marcher vite, et pour donner l'exemple, on en tire au sort un et on l'abat. Et Robert Antelme raconte l'histoire de ce jeune Italien, il est appelé et il a ce moment où il dit quoi, c'est bien moi, et il rosit. C'est-à-dire que on voit que la honte a une espèce de telle épaisseur que de se sentir désigné comme ça au sein du groupe, c'est ça qui va surgir. Donc toute cette histoire pour montrer à quel point la honte, dont la philosophie s'est quand même très largement désintéressée, la psychologie a fait des tonnes sur la culpabilité, a un peu parlé de la honte, mais en même temps, la honte, c'est une espèce de couche affective qui en nous dessine des visages tout à fait singuliers et forts.
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et psychanalyste.
Après un trauma, les gens ont honte, alors qu'ils n'ont aucune raison objective d'avoir honte. C'est un accident de la vie. L'exemple le plus flagrant, c'est les femmes agressées sexuellement qui vont peu au commissariat parce qu'elles ont honte d'avoir été agressées. Elles sont coupables de quoi ? De rien. Et pourtant, elles ont honte d'y aller parce qu'elles savent que, en parlant, en racontant ce qui leur est arrivé, elles vont planter dans l'âme de l'autre une représentation de soi dégradée. Il va comprendre que je suis humilié.
Alors, la parole est libératrice, mais encore faut-il pouvoir parler. Peut-être aussi pour que la honte change de camp, sait-on jamais.
Pour pouvoir parler, il faut que la honte change de camp. Et ce qu'il y a de très beau dans cette manière de poser le problème de la honte de la femme violée, c'est aussi que dans toute cette hésitation dont il fait part en disant « on hésite à aller au commissariat, à porter plainte, etc. », secrètement se joue le thème du « mais tu l'as quand même bien cherché ». Et qu'il y a une espèce de message social qui va traverser les femmes, et la honte, c'est ce repli-là. C'est-à-dire la manière dont un discours va s'implanter en elle, qui consiste à dire, mais au fond, oui, c'est ça, ne cherche pas, c'est toi qui l'as cherché.
Les femmes, et aussi, il y a aussi des hommes, des garçons qui sont
oui,
violés. Hein.
Ou des jeunes garçons incestés, voilà. Etc. C'est pas, mais bon, la majorité,
oui, la majorité, c'est vrai.
Grande majorité est quand même féminine, et c'est vrai que cette honte-là, alors là, pour le coup, elle mérite d'être dépassé et d'être reprojeté. Parce que le pire, c'est que c'est le bourreau qui va se conduire comme de manière tout à fait éhontée, aller très bien et puis rigoler même de ce qu'il a pu faire, et la victime a honte.
Alors à l'heure actuelle, bon, ça reste très difficile de parler, mais on va dire que c'est possible. En 1986, il y a donc 35 ans, c'était une autre histoire. Vous vous souvenez peut-être d'Eva Thomas, auteure d'un livre, Le viol du silence. Ça a été en fait la première personne victime d'inceste à témoigner.
Alors j'ai choisi de parler à visage découvert et parce que j'ai envie de sortir de la honte. Et j'ai envie de dire aux femmes qui ont vécu ça que, enfin, il faut pas avoir honte de ce qu'on a vécu. Et moi, je n'ai plus honte de répondre de mon histoire. Évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai donc écrit ce livre. Et c'est à cause de ce livre que ce soir, je peux être là et que je peux parler tranquillement de mon histoire. Je crois que sans l'écriture, jamais j'aurais pu faire ça. Mais j'ai dit tout ce que j'avais vécu, senti pendant 30 ans après le viol dans ce livre-là, et maintenant j'ai trouvé une sorte de paix et je peux vous en parler ce soir.
En 1986. Hein.
Oui, 1986. C'est vrai que c'est un passage très beau, parce qu'on sent bien que la honte, à partir du moment où elle se dit et où elle se partage, quelque chose comme une espèce de concrétion se dénoue, et on arrive à se dire, mais c'est pas moi qui suis nul, c'est pas moi qui suis coupable, c'est pas moi qui suis atroce, c'est le système, c'est ce qu'on m'a fait qui est horrible. Et ça, c'est seulement dans le partage de la honte que peut se faire ce renversement, c'est-à-dire quand je disais que la honte, ça peut être une machine à vous faire rentrer dans des cases et à faire marcher le système. C'est-à-dire, au fond, j'accepte d'être sous-payé parce qu'au fond, je suis nul et c'est vrai que je suis nul. D'en parler avec d'autres et de le partager, c'est là que va se faire le renversement. On se dit, mais non, ce sont les conditions de travail qui sont ignobles. C'est pas moi qui suis absolument nul. Et c'est pour ça que ce moment de partage est essentiel.
Mais est-ce qu'on peut rapprocher, par exemple, la honte qu'Eva Thomas à éprouver, et d'autres évidemment, à celle de Primo Levi, c'est-à-dire la honte du survivant et de l'abusé, comme le disait Boris Cyrulnik tout à l'heure, cette honte d'être au monde, cette honte d'être du monde, enfin je sais pas comment il faut dire.
Oui, oui,
Primo Levi, on le rappelle, oui. qui a été déporté, qui est un survivant et qui s'est suicidé quelques années plus tard.
Qui se suicidait parce que quelque chose, c'est toujours cette affaire, c'est toujours cette affaire de place. Au fond, la honte du survivant, c'est de se dire, mais quel mérite j'ai eu particulier, moi, à survivre, alors que tant d'autres y sont restés qui étaient sans doute bien meilleurs que moi. Ça permet d'aller quand même, je trouve, aujourd'hui, ça peut nous être important à entendre, parce que ça permet d'aller faire exploser toute une idéologie de la chance, du mérite, qui consiste à dire « mais arrêtez d'essayer de nous faire honte ». Parce que contre la honte, vous avez quand même toute une série d'intellectuels qui vont vous dire « mais encore de la tristesse, arrêtez, il y en a assez de se flageller, il y en a assez de dire qu'on est atroce, etc. » Sauf que là, j'ai du mérite, moi j'ai travaillé, etc. Sauf que non, je veux dire, se laisser traverser par... J'ai la honte, ça peut être quand même aussi le minimum syndical du sujet moral. C'est reconnaître que oui, qu'au fond, on a eu de la chance, du mérite sans doute, de la chance un peu, mais cette chance-là, d'autres l'ont payée au coût très fort. C'est juste reconnaître ça. Il ne s'agit pas de se lancer dans de la culpabilité hystérique.
Mais la honte qui colle à la peau de celui qui a commis, peut-être, qui est présumé coupable, etc. Mmh. Bon, on peut le citer, puisque l'affaire a été rendue publique, mais Olivier Duhamel, par exemple, aujourd'hui, oui. J'imagine, quand il se promène dans la rue, on doit le regarder d'une drôle de manière.
Ah, je pense, oui. Oui, tout à fait, oui.
Alors là, c'est la honte. Il n'a pas forcément honte. Enfin, je ne sais pas. Hein, j'en sais rien, évidemment. On ne sait pas s'il a honte de ce qu'il a fait ou si c'est le regard qui lui envoie de la honte, les ondes.
Alors là, il peut y avoir différentes choses. C'est-à-dire, il peut y avoir quand même une manière de clouer quelqu'un au pilori de la honte et de le désigner. Je veux dire, ça a un côté pratique parce que, encore une fois, c'est une manière de se débarrasser de sa propre monstruosité. Mmh. Je veux dire, il y a des faire honte. Alors, vous prenez le cas de... mais au fond, Justine Sacco, elle était beaucoup plus victime. Encore une fois, ce qu'a fait Olivier Duhamel était hautement criminel et coupable, etc. Mais c'est vrai qu'après, il peut y avoir des systèmes de faire honte qui permettent à chacun de se débarrasser de leur monstruosité. C'est pour ça qu'il faut faire. C'est un sentiment qui est très terriblement ambivalent, ambigu, parce qu'à la fois il porte la flamme de l'énergie de la reconstruction intérieure, et oui, et collective aussi, mais il porte aussi ce poison qui va nous détruire.
Je suis la fille du temps.
Désarmée, c'était Laura Cahen.
France Inter. L'heure philo. Patricia Martin.
Dites-moi, pourquoi vous regardez mon nez ?
Moi ?
Qu'a-t-il d'étonnant ?
Votre grâce se trompe.
Est-il mollet ballant, monsieur, comme une trompe ?
Mais tu portais les yeux, j'avais su me garder.
Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder ?
J'avais.
Il vous dégoûte, alors ?
Monsieur.
Malsaine vous semble sa couleur ?
Monsieur.
Sa forme obscène ?
Pas du tout.
Pourquoi donc prendre un air dénigrant ? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand ?
Je le trouve petit, tout petit, minuscule.
Hein ? Comment ? M'accuser d'un pareil ridicule, petit, mon nez ?
Voilà ! Ciel ! Énorme, mon nez !
Ville Camus, saut Camard, tête plate ! Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable marot.
Cyrano la tirade du nez, évidemment, quel incroyable retournement de situation.
Eh oui, c'est vraiment le retournement de la honte, c'est-à-dire la manière dont on va aller chercher ce point de stigmatisation et on en fait un levier.
C'est ce qui vous fait naître, c'est ce qui fait naître Cyrano.
C'est ce qui fait naître Cyrano, c'est-à-dire c'est ce qui le rend terrible, c'est ce qui va provoquer, j'allais dire, sa grandeur, c'est-à-dire de pouvoir faire de ce qu'il considère d'ailleurs lui-même comme un handicap physique et dont il souffre aussi, parce que toute l'histoire raconte la manière dont il ne parvient pas à dire son amour à cause de ce qu'il lui semble un petit peu monstrueux aussi dans des relations plus intimes, amoureuses, etc. Mais dans le social, précisément, il va éviter cette espèce d'hypocrisie, de on fait comme si ça n'existait pas, et faisant de cela un levier, il fait exploser le système.
Mais sa honte est révolutionnaire, d'où le titre de votre livre, Frédéric.
Oui, c'est-à-dire la honte est révolutionnaire à partir du moment où on accepte de voir que dans toute honte, ce qu'on appelle son élément de tristesse ou sa noirceur, ça cache quand même quelque chose comme un noyau pur de colère. C'est-à-dire qu'au fond de la honte, il y a une colère. Et que cette colère, il y a de la rage impuissante, il y a de la rage. Et que cette colère, soit elle se retourne contre soi, soit ça devient de la résignation et on accepte, etc. Soit elle se redistribue, elle se redirige, et à ce moment-là, effectivement, ça devient révolutionnaire. La phrase de Marx, parce qu'au fond, c'est une citation de Marx, j'ai pas trouvé ça tout seul, c'est une très belle citation qui, moi, au début, parce que effectivement, je me disais, mais comme beaucoup, la honte, c'est de la tristesse, c'est quand même quelque chose dont il faut se débarrasser, il faut apprendre à sortir de la honte, etc. Sauf que, donc, on a ce texte de Marx, il est en train de lire comme ça une gazette où il apprend des décisions du Parlement qui sont absolument terribles et il a honte pour son pays, et il écrit « La honte est révolutionnaire ». C'est une colère rentrée, et après cette phrase splendide, et si tout un peuple avait honte, il serait comme un lion prêt à bondir. L'image vraiment de l'image du fauve, c'est-à-dire qu'il a très bien su voir dans la honte cette espèce d'élément de colère qui peut être contagieux, rassembleur, fédérateur, et qui fait que les hontes mises ensemble deviennent de la colère transformatrice. Mais...
De colère ou de violence aussi. Vous citez Frédéric Gros dans votre livre Salman Rushdie, qui dit qu'il y a deux racines finalement de la violence. Les deux principales racines, en tout cas, c'est la honte et c'est l'absence de honte.
Oui, il y a une violence des éhontés quand même. C'est-à-dire les éhontés qui considèrent que les autres sont des choses, qu'après tout, les gens qui gagnent moins que nous sont à notre service, qu'on peut les mépriser de manière tout à fait.
Ça n'existe pas, ça, les gens dont vous parlez.
Etc. Un petit
dans
peu
vos
quand
rêves,
même.
Enfin, dans vos cauchemars.
Enfin, mes cauchemars plutôt. Eh bien, parfois, le cauchemar ressemble un peu trop à la réalité. Donc, il y a une violence terrible des éhontés. Et contre cette violence se dresse la violence qui est la violence de la colère. C'est-à-dire que cette rage c'est toujours ce passage du mais non. C'est pas que je suis nul, c'est vraiment que ce système est trop injuste qui va faire qui va produire cette alchimie qui est assez rare, qui est l'alchimie révolutionnaire.
Et ça régule d'une certaine manière notre rapport au vrai, au bien?
Alors, ça peut le réguler, mais en rentrant cette fois dans un troisième paysage de la honte qu'on a assez peu vu, mais qui est... parce que souvent, on parle beaucoup plus de pudeur ou de pudeur morale, mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que quand on lit les anciens, les auteurs anciens, on a ces phrases, la honte est le principe directeur de l'homme de bien, dit Platon. Aujourd'hui, on comprend pas, on se dit, mais enfin, c'est quoi ce rapport entre la sagesse et la honte? Mais la honte, c'est tout simplement cette capacité qu'on peut avoir à se retenir. Se retenir un peu au bord de la vulgarité, au bord de la bêtise, au bord de l'indécence. Qu'est-ce qui nous retient? C'est qu'on aurait trop honte. Donc là aussi se joue dans cette capacité qu'on peut avoir à se limiter, à se retenir, à ne pas sombrer tout à fait. Se joue quelque chose de, oui, de la sagesse. Ou même, par exemple, on pourrait dire que l'art, c'est ce qui fait honte à la laideur. Non, on va pas se permettre ça. C'est trop laid. Donc là, on a encore un troisième faire honte qui n'est pas le faire honte stigmatisant, minorisant, qui n'est pas non plus le faire honte où on fait honte à quelqu'un pour se débarrasser de sa monstruosité, mais un faire honte qui permet, oui, de nous élever.
Mais vous citiez Platon, dans les sagesses anciennes, la honte, ça, c'est ce qui mène aussi à la perfection morale. Et, oui. Et vous racontez, enfin, vous montrez aussi comment la fonction initiale de la philosophie, c'est de faire honte, mais à condition de ne pas humilier.
Ouais, c'est tout le secret, c'est la grande, c'est même pas de l'ambiguïté, mais vous dites très bien qu'au fond, la honte, c'est une manière de réguler son comportement. Mais c'est pas qu'on la ressent, c'est qu'on s'autorégule en se disant « j'aurais trop honte ». C'est de la honte conditionnelle, etc. Mais qu'est-ce qui va nous provoquer de l'extérieur? Oui, c'est un faire honte, et la philosophie peut être... Je veux dire, pourquoi Socrate a été mis à mort par Athènes? Parce qu'il faisait trop honte. Il faisait trop honte à tous ces hommes politiques qui récitaient des leçons apprises sur la justice, le bien du peuple, etc. Et quand Socrate posait la question, mais enfin, tu parles de justice, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'appelles précisément la justice? Il savait rien, etc. C'est-à-dire que il se perdait en déclarations oiseuses, etc. C'est-à-dire que la philosophie est cette entreprise qui va faire honte, mais jamais à l'ignorance. Elle va faire honte au faux savoir, au savoir récité, à l'arrogance universitaire, à l'arrogance des diplômes, etc. C'est ça. Et c'est pour ça, c'est pas du faire honte pédagogique. Nous, ce qu'on a appris, c'est quand même d'avoir honte de son ignorance. Ah ben non, je savais pas ça, etc. Et la philosophie, par rapport à se faire honte académique, pédagogique, etc., fait surgir cette figure où on va faire honte à quelqu'un, mais de ce qu'il sait, parce qu'il ne fait que le réciter. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu sais? C'est la question de la philosophie, et se faire honte, bah oui, ça nous structure un peu, parce que c'est ça qui nous remet à la verticale de la question de la vérité.
Et est-ce que la honte a à voir avec l'honneur?
Avec l'honneur, oui. Dans tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelait, en commençant l'émission, l'image publique, l'image sociale, cette dégradation de l'image publique, oui, c'est la perte de l'honneur.
Donc on est en train de construire des sociétés sans honneur?
Disons que par rapport, si vous voulez, à un système classique ou même archaïque qui considérait que, de toute façon, il y avait comme ça des opprobres qui pouvaient s'étendre sur la famille, etc. C'est vrai que les temps modernes se sont construits par une espèce d'érodage lent comme ça de ces vieux sentiments d'honneur, etc. Or après, ça s'est retrouvé dans la famille respectable.
On est loin des confessions de Jean-Jacques Rousseau qui racontent le vol d'un ruban, par exemple.
Ah oui, on est loin de ça. Et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les réseaux sociaux font ressurgir des hontes digitales, des hontes numériques qui sont terribles, qui peuvent traumatiser, bouleverser l'existence d'adolescents, mais même d'adultes, parce que maintenant, on joue sa réputation, on joue son être même en baladant l'image de soi sur les réseaux sociaux.
Michael Kiwanuka, il est britannique, on l'a souvent comparé à Otis Redding, Love and Hate. Thank you.
You can't break me down. You can't take me down.
Pour leur philo, en compagnie de Frédéric Roux, il y a un pan de la honte qu'on n'a pas encore évoqué, Frédéric Roux, c'est quand on se construit sur une mystification narcissique, les conséquences peuvent être dévastatrices. À preuve, Jean-Claude Roman, qui s'est fait passer pendant des années, donc je pense que beaucoup d'auditeurs s'en souviennent, pour un médecin travaillant pour l'Organisation Mondiale de la Santé, alors qu'il avait échoué dans ses études. Eh bien, et puis ça a donné l'adversaire aussi de Jean-Claude Carrière, et ça a donné un film, exactement. Daniel Cetelen, c'est un des psychiatres en fait qui a auditionné Roman et qui en parle.
Je crois qu'il croit ses mensonges. Il croit tellement que même il fallait le temps en temps lui rappeler qu'il était en prison. Puis il parlait de lui comme s'il parlait de quelqu'un d'autre d'ailleurs.
Et ça traduit quoi ça ?
Eh bien, ça traduit toute l'organisation de son psychisme. C'est-à-dire qu'il est construit sur une mystification qui est purement narcissique. Tous les autres, tout ce qui l'entoure, ne sont que des faire-valoir de lui-même. Sa femme, ses enfants, oui, il est souffrant, effectivement, c'est un homme souffrant. Toute sa vie, il a vécu dans la dissimulation. Ce dont il souffre, c'est de n'avoir jamais pu être Jean-Claude Roman, mais d'avoir toujours été dans la peau d'un autre, la peau d'un enfant qui doit protéger sa mère, plus tard d'un enfant qui doit être dans l'idéal des maîtresses, qui l'ont considéré comme le meilleur du canton. Il devait toujours être dans la peau de quelqu'un qui protégeait quelqu'un. Et derrière, c'était toujours la mère. Et on peut comprendre toute cette, au-delà de l'amour qu'il pouvait avoir pour ses géniteurs, la haine qu'il a pu éprouver pour ces gens qui n'ont pas su le protéger et lui donner confiance en lui.
Honte à moi, j'ai dit Jean-Claude Carrière, c'est évidemment Emmanuel Carrère pour l'adversaire. Et Dieu sait si c'est un livre prenant. Ne jamais réussir à habiter sa propre peau, mais dans la peau d'un autre, c'est ça, vous pensez, Frédéric Roux,
bah oui,
ce qui
parce
est arrivé
que
à Jean-Claude Roman.
La honte, ici, on essaye d'en trouver comme ça une espèce de définition un peu parlante, on va toujours tomber sur l'idée que c'est un décalage douloureux, quoi. Un hiatus qui fait mal, mais entre quoi et quoi ?
Sa vie n'était qu'une façade, lui n'était qu'une façade.
Sa vie n'était qu'une façade parce que d'abord, il ne cessait d'éprouver le décalage entre ce qu'il aurait voulu être et ce qu'il était vraiment. Et donc, il va habiter ce qu'il aurait voulu être. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'est de la honte narcissique de laquelle on revient parce que, voilà, on se fait un peu humilier, parce qu'on a des prétentions qui sont un peu...
C'est une tendance, on va dire, humaine, un peu naturelle.
Oui, c'est un peu naturel.
Oui,
on est dans la vantardise, dans la jactance, etc. Et puis, on se fait un peu remettre en boîte. Voilà, et puis c'est de la micro-honte narcissique et ça aide à avancer aussi, hein, parce qu'on se croit ceci, on se croit cela. Là, vraiment, ça allait très loin. Et au-delà de ça, c'est ce que rappelle le psychiatre. droite se joue encore autre chose, qui est la manière dont on va vouloir, dont on imagine que les autres nous aiment. C'est-à-dire que c'est même pas entre ce que je suis et ce que les autres voudraient que je sois. Je voudrais que mon fils soit médecin, qu'il fasse des brillantes études, etc. C'est qu'on imagine que leur amour passe par là. Et donc, il investit ça, et là, c'est vraiment une tragédie de la honte, cette affaire roman, une tragédie terrible, hein, qui a été sanctionnée quand même par des meurtres, hein. Il a tué sa femme, ses enfants, ses parents, tous ceux qui pouvaient le regarder.
Voilà, le regarder. En même temps, au moment où il les a tués, il ne les regardait pas. Parce que
oui,
sa maîtresse a raconté, dans L'Adversaire, Emmanuel Carrère le raconte très bien, que si elle l'avait pas regardé dans les yeux, ce qui a été le cas, elle aurait été tuée en pleine forêt.
Tout à fait. Mais au fond, ce qu'il supportait pas, c'est ce regard. Et c'est vrai que la honte, c'est souvent une tragédie du regard.
Mais est-ce que l'honneur, pour Jean-Claude Roman, n'aurait pas été, finalement, plutôt que de tuer tout le monde autour de lui et ceux qu'il aimait, n'aurait pas été de se tuer lui, puisque lui, il a essayé de se suicider, on ne sait pas très bien jusqu'à quel point.
Ouais, parce que c'était assez, c'est vrai qu'il prend des médicaments un peu frelatés, il met le feu à la maison, oui, mais il prend soin d'ouvrir la fenêtre, et puis c'est assez tard, il sait bien que le soleil va se lever, les voisins sont passés. Donc, c'est vrai que ce qu'il fallait tuer, c'était les yeux qui pouvaient le mettre en regard, mais peut-être que pour lui-même, il avait encore assez pour construire d'autres histoires.
Il n'est plus en prison, il vit désormais retiré dans un monastère. Est-ce que vous pensez qu'il a déposé sa honte peut-être devant l'Éternel?
Ça c'est compliqué parce qu'encore une fois,
on n'est pas dans sa tête.
Ouais, je suis pas dans sa tête, mais j'ai été sensible à une homélie du pape François qui disait Dieu, qui est une homélie sur ce qu'il appelle la grâce de la honte.
Oui, mais que vous comprenez pas très bien d'ailleurs cette grâce de la honte. Vous dites c'est bizarre comme.
Je dis que c'est bizarre, mais j'essaye de la comprendre en se disant au fond peut-être que qu'on a tellement des ressorts en nous pour nous arranger avec notre conscience qu'une vraie honte pourrait nous structurer, parce que tout le problème, et c'est ce qu'on a vu depuis, c'est qu'il faut bien distinguer la honte de soi et la honte devant soi-même. Je veux dire, avoir honte de soi, c'est quoi? C'est avoir des difficultés à s'accepter. Et c'est vrai que c'est terrible et que ça vous empoisonne quand vous-même vous devenez une souffrance dans la manière dont, vous apparaissez ou vous croyez que vous apparaissez aux yeux des autres. Mais la honte devant soi-même, devant ce que Nietzsche, par exemple, appelle le moi supérieur, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être très structurant. Parce qu'une manière de s'accepter aussi, c'est d'être très content de soi-même. C'est d'être absolument satisfait et de trouver que vraiment je suis absolument génial,
etc. Ça ne marche pas tout le temps, ça.
Ça ne marche pas tout le temps.
On peut être parfois un peu content de soi, mais le plus souvent, les gens doutent, non?
Bah, parlez pour vous. En tout cas, moi j'en connais beaucoup qui ne doutent absolument pas et à qui je souhaiterais un peu
De maintenir, honte, de réprimer, honte. De retenir quelque chose.
Ouais, de retenir ou en tout cas d'être toujours traversé par cette espèce d'inquiétude que on n'en a jamais complètement fini avec soi et avec les autres. Et qu'au fond la honte peut être aussi, au-delà de ce poison qu'on a décrit, un remède à la satisfaction de soi et du monde, parce qu'on peut trouver aussi que le monde va très bien comme il va.
Ouais. Frédéric Roux, quelle pourrait être votre honte à vous?
Ouh là là, bah c'est celle que je vais pas raconter, évidemment. C'est
évidemment.
Celle que je tiens
mais
secrète.
Vous avez bien raison.
Bah ce serait des hontes d'enfance qui font partie de ce qui, des espèces de petites poches de silence qu'on tient en soi et qui finissent par devenir même quelque chose comme une pierre d'angle, comme un fondement. C'est ça qui peut être curieux dans la honte, c'est que elles peuvent être destructrices et on peut cultiver quelque chose comme un secret autour d'elles qui fait qu'on finit par bâtir à partir d'elles et de s'en faire un levier.
Mais la honte des enfants, elle est brûlante, elle peut l'être en tout cas.
Ah oui, elle est brûlante.
Terrible.
Ce sont des ondes terribles parce qu'il n'y a pas de, parce qu'il n'y a pas de distance, parce qu'elles prennent effectivement des dimensions, des dimensions folles et qu'elles sont absolues. Elles peuvent mener, oui, jusqu'à la mort, jusqu'à des dépressions terribles, etc.
On en revient au vol d'un ruban de Jean-Jacques Rousseau, un peu.
Oui, c'est vrai que c'est un passage magnifique, honte invincible, etc. Parce qu'il montre bien, je veux dire, c'est l'intérêt de ce passage que. Dans les confessions, il y a une telle force de la honte que la culpabilité ne va pas tenir une seconde. Et que je vais préférer mentir, que je vais préférer faire des choses horribles plutôt que de supporter le petit moment de honte qui fera que je me liquéfierai 3 secondes, mais ces secondes vaudront une éternité devant le regard des autres.
En tout cas, Frédéric Gros, vous êtes content d'avoir apporté votre pierre à l'édifice de la philosophie en réfléchissant sur la honte ?
Ah bah si je dis que je suis content, c'est que je n'aurais pas assez honte.
Vous voyez, vous êtes paradoxal comme garçon.
Ah oui, un petit peu, ouais. Ouais, j'essaye.
En tout cas, merci d'être venu nous voir ce soir, Frédéric
merci
Gros. Donc, la honte est un sentiment révolutionnaire. C'est paru aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Merci.
La semaine prochaine, nous recevrons la philosophe italienne Ilaria Gaspari pour des leçons de bonheur ou comment les philosophes antiques ont changé sa vie.